L'actualité francophone en Afrique avec la crise politique en RDC. Le mandat du président Joseph Kabila est terminé depuis lundi, mais faute d'élection, il reste au pouvoir. En France, la condamnation sans peine de Christine Lagarde, la patronne du FMI, n'en finit pas de susciter la colère dans toute la classe politique, mais pas que. Le Parlement suisse, lui, cherche à revenir sur un vote populaire en remettant en cause la libre circulation des personnes avec l'Union européenne. Et il n'arrive pas à s'en dépêtrer. En Belgique, le PNR, le Passenger Name Record, arrive au Parlement et le projet belge ne veut pas se limiter qu'aux seuls avions. Enfin, au Canada, une bonne nouvelle pour les internautes, les plus isolés bientôt de l'Internet haute vitesse partout sur l'immense territoire canadien. Et on commence avec la personnalité de la semaine. En Belgique, vous avez retenu le témoignage fort d'une maman, Nathalie De Vic.
Véronique Loot, mère d'un des premiers djihadistes belges partis combattre en Syrie en 2012 à l'âge de 23 ans. Samy Djedou a été tué ce 4 décembre par un drone américain près de Raqqa. Les Américains pour qui Samy était sans nul doute l'un des commanditaires des attentats de Paris. La dernière fois que Véronique a eu un contact avec son fils, c'était l'été 2015. Elle n'a jamais réussi à le ramener à la raison et cherche toujours à comprendre comment les faiseurs de monstres, comme elle les appelle, ces dirigeants de filières terroristes, ont pu être plus forts qu'elle. Son dernier espoir est à présent de rencontrer ses deux petits-enfants, toujours en Syrie.
Direction le Canada cette fois. Vous, Benoît Audet, vous avez décidé de vous intéresser à un autre acteur de la crise syrienne, un réfugié syrien arrivé au Canada au début de l'année.
Oui, il s'appelle Jad Moussali et il est un peu le gardien de la mémoire d'Alep. Il vient en aide à un historien qui est toujours à Alep et qui a amassé une collection impressionnante de photos de la ville et de documents anciens. Jad Moussali gère la page web qui regroupe ces documents. Grâce à son travail, on conserve des traces de la splendeur passée d'Alep. Donc, c'est une petite lueur d'espoir après des années de guerre qui ont réduit certains quartiers en poussière.
En Afrique, la personnalité ou les personnalités de la semaine, Charlotte Hydrac, ce sont les tirailleurs sénégalais.
Et une reconnaissance, le président Hollande a promis de faciliter l'octroi de la nationalité française à ses soldats recrutés dans les colonies pour servir dans l'armée française entre 1857 et 1960. Ils ont tous plus de 70 ans. Aujourd'hui, ils sont moins d'un millier en France. Cet engagement attendu depuis des années, c'est un symbole. C'est aussi la fin du dilemme pour ces hommes. Rester en France pour toucher leur pension ou rentrer au pays et la perdre. Parce qu'aujourd'hui, pour bénéficier de cette retraite, ces anciens combattants doivent passer au moins 6 mois de l'année dans l'Hexagone.
En France, Saurin, ce nom ne vous dira rien. En revanche, si je vous parle de William Saurin, là vous verrez de qui je parle. Le poids lourd de la conserve en boîte est au bord de la faillite. L'unique propriétaire de la marque est morte fin novembre, ruinée. Elle laisse derrière elle un monceau de dettes après la découverte de graves manipulations dans les comptes de son petit empire, qui compte également le couscous Garbit ou encore le jambon Madrange. 70 millions d'euros ont été prêtés par l'État français cette semaine pour voler au secours de la société qui emploie près de 3000 personnes. Enfin, en Suisse, Pierre Anchoffat, vous saluez cette semaine une championne de ski.
Oui, la Tessinoise Lara Gout, 25 ans, qui vient d'être désignée sportive suisse de l'année pour la première fois de sa jeune carrière. Il faut dire qu'elle a remporté le classement général de la Coupe du Monde de ski la saison dernière, un honneur qui échappait à la Suisse depuis 10 longues années. Et Lara Gout compte bien défendre avec hargne son globe de cristal cette saison, quitte à se fâcher avec les organisateurs du géant de Courchevel, dont elle n'a pas apprécié la course chahutée par le vent. « Nous ne sommes pas des windsurfers et nous n'avons pas d'ailes », a-t-elle ironisé sur Twitter.
Pas d'élection présidentielle en République démocratique du Congo à l'horizon. Pour se maintenir au pouvoir, eh bien c'est simple, Joseph Kabila a trouvé une solution toute simple. Il y reste de force. La crise politique en RDC s'accentue, Charlotte Hydrac.
C'était une date marquée en rouge dans les agendas des Congolais. Le 19 décembre, lundi dernier, à minuit, c'était la fin, en principe, du second et dernier mandat du président, d'après la Constitution. Sauf que Joseph Kabila est toujours là. Les élections prévues le mois dernier n'ont pas eu lieu, faute de temps et de moyens, selon le gouvernement. Pour le camp du chef de l'État, il doit et va donc rester au pouvoir. Barnabé Kikaya Binkaroubi, son conseiller diplomatique.
Le président va continuer à exercer ses fonctions de président jusqu'à ce que ce pays organise des élections et se dote d'un nouveau président élu. Donc, rien ne change.
Du changement, c'est justement ce que veut l'opposition qui accuse Joseph Kabila d'avoir torpillé volontairement le processus électoral. L'opposant historique Étienne Tshisekedi s'est exprimé dans un message vidéo diffusé mardi.
Je lance un appel solennel au peuple congolais et résister pacifiquement au coup d'État qui est ainsi accompli avec la bénédiction de la Cour constitutionnelle.
Cela fait des semaines que les partenaires de la RDC lancent des appels au calme, font pression aussi. L'Union européenne et les États-Unis ont pris récemment de nouvelles sanctions. Un accord politique doit permettre d'éviter une nouvelle spirale de la violence dans ce pays déchiré par les conflits armés et les crises politiques à répétition.
En France, une décision n'en finit pas de susciter la polémique. C'est le verdict controversé de la Cour de justice de la République. La patronne du FMI, Christine Lagarde, a été reconnue coupable de négligence ayant mené à un détournement de fonds publics dans l'affaire dite Tapie, plus de 400 millions d'euros. Cette affaire date de 2007. Elle était à l'époque ministre des Finances de Nicolas Sarkozy. Coupable, oui, mais dispensée de peine, en raison notamment de sa réputation internationale. Christine Lagarde n'a pas commenté cette décision, annonçant juste qu'elle ne ferait pas appel. Mais cette dispense de peine a suscité l'étonnement et les critiques des élus de tous bords, du Front National au Front de Gauche, en passant par le PS et le Modem, à l'image de son président François Bayrou.
Tout le monde n'est pas égal devant la justice. Ceux qui sont puissants sont protégés parce qu'il faut protéger leur réputation. Et les autres citoyens, eux, n'ont aucune protection. Les uns sont sanctionnés, c'est les exécutants. Ils vont venir devant un tribunal. Ils vont être poursuivis pénalement pour ce qu'ils ont fait. Mais les décideurs politiques qui, eux, ont pris la responsabilité de signer, ceux-là sont mis à l'abri de toute sanction. Eh bien, pour moi, c'est un grave manquement à l'égalité devant la loi.
Et il n'y a pas que la classe politique française qui a fait part de son émoi cette semaine. Une pétition sur Internet réclamant un nouveau procès cartonne. Elle a ainsi recueilli plus de 150 000 signatures en seulement 3 jours. La Suisse, Pierre Anchoffat, ne parvient pas, elle, à sortir de son débat européen.
Nous évoquions la semaine dernière la solution trouvée par le Parlement pour mettre en œuvre l'article contre l'immigration de masse, une solution souple qui semble bien avoir apaisé les tensions avec Bruxelles. Mais cette semaine, le gouvernement a remis l'ouvrage sur le métier. Il a décidé de faire une contre-proposition à l'initiative populaire appelée RASA. Ce texte veut purement et simplement biffer cet article sur l'immigration adopté par le peuple en février 2014.
Et cela, Pierre-Ans, c'est excessif pour votre gouvernement.
Oui, car corriger ainsi une décision populaire, c'est évidemment problématique dans notre démocratie directe. En revanche, le Conseil fédéral n'apporte pas une réponse claire pour garantir à long terme la libre circulation des personnes. Il propose 2 variantes, un brin alambiqué. Simonetta Sommaruga est la ministre en charge de ce dossier.
C'est une question qui n'est pas facile parce qu'il y a différentes façons de faire. Et avec les 2 variantes, on peut aussi avoir une discussion qui est plus large. Il y a peut-être des avantages pour une variante, pour une autre variante. Et le Conseil fédéral, il veut mener cette discussion. Il aura les réponses et après, il va prendre ses décisions sur les résultats de la consultation.
Bref, vous l'aurez compris, le gouvernement ne sait pas trop comment se défaire de ce problème qui, comme le sparadrap du capitaine Haddock, lui colle à la peau depuis bientôt 3 ans. La vraie question est pourtant assez simple. Les Suisses veulent-ils, oui ou non, maintenir la libre circulation des personnes avec l'Union européenne, avec ses répercussions en termes migratoires? Cette question-là, c'est toutefois l'UDC de Christophe Blocher qui risque bien de la poser frontalement, avec une bonne dose d'incertitude sur l'issue du vote.
De RASA à PNR, c'est la semaine des sigles en Belgique. Nathalie Devic, le Parlement débat de la mise en place du fameux PNR.
À savoir le Passenger Name Record, ce nouveau système d'enregistrement des données des voyageurs demandé par l'Union européenne pour mieux lutter contre le terrorisme. Des données stockées dans un immense fichier confronté à une liste de terroristes présumés, terroristes dont la traçabilité serait ainsi également mieux assurée. Alors le projet belge, lui, veut aller plus loin en ne se limitant pas aux seuls passagers d'avion, mais aussi à toutes les personnes circulant en train, en bateau ou encore en bus. Et c'est loin d'être évident. Pour ce qui est des trains, par exemple, hors le Thalys, les tickets en Belgique ne sont pas nominatifs, il n'y a pas de place attribuée, pas plus que dans les cars. Les exploitants craignent de ne pas survivre économiquement au PNR, vu la spécificité du réseau belge, comme l'explique le patron de leur fédération, Yves Momartz.
Il y a en Belgique un énorme déficit d'infrastructures dans la mesure où il y a une seule gare routière pour autocars, la gare du Nord à Bruxelles. Les autres départs se font souvent au coin d'une rue. Et quand vous êtes là sur un trottoir, Il n'y a pas d'infrastructure, mais donc s'il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas de personnel non plus.
Alors le coût pour changer cela entraînerait une trop lourde perte de compétitivité sur le marché européen, estiment les exploitants de cars, sans compter les lacunes du système. Comment contrôler parallèlement les modes alternatifs de circulation qui se développent de plus en plus aujourd'hui, comme le covoiturage ? Reste, on l'entend, encore beaucoup de questions à régler.
Alors si vous aimez les sigles, en voilà un autre, mais cette fois c'est une bonne nouvelle pour les Canadiens qui n'ont pas encore accès à une connexion Internet haute vitesse. Le CRTC, qui est l'autorité canadienne en matière de télécommunication, a rendu une décision attendue à ce sujet. Et Benoît Audet, on reconnaît qu'Internet est en quelque sorte un service essentiel.
Oui, en 2015, 82% des Canadiens avaient accès à des connexions d'au moins 50 mégabits par seconde. On veut que l'ensemble de la population ait accès à cette vitesse d'ici une quinzaine d'années. Le CRTC met donc sur pied un fonds de plusieurs centaines de millions de dollars pour offrir ce service aux Canadiens qui n'en bénéficient pas encore. Les grands fournisseurs d'Internet devront aussi y contribuer.
Et ce sont donc les gens des petites communautés qui vont en bénéficier.
Oui, souvent des régions isolées, mais pas dans tous les cas. Il y a plusieurs exemples de villages situés parfois à une heure de route de grands centres comme Montréal qui n'ont pas accès à Internet haute vitesse. C'est le type de situation qu'on veut éliminer progressivement.
Et l'accès à Internet au Canada, présentement, c'est abordable en général si on compare à d'autres pays?
Par rapport à nos voisins immédiats, les États-Unis, oui, mais pas si on se compare aux pays européens comme la France et le Royaume-Uni où la facture est moins élevée. Les Canadiens paient aussi plus cher que les Européens pour les données de leur téléphone mobile. La concurrence ici est moins importante qu'en Europe.
C'était l'actualité francophone de cette semaine. Retrouvez-nous sur le site lesmediafrancophones.org.